Cube Radio. En direct à LCN.
On va aller joindre Philippe-Vincent Foisy dans les studios de Cube. Bonjour Philippe-Vincent.
Salut Marianne.
Parlons encore une fois, et oui, de l'inflation. On s'en rend compte dans la vie de tous les jours. Il me semble que tout coûte plus cher. C'est clairement le cas. Bon, les aliments, logement, véhicule, essence, même la bière coûte plus cher. Et là, on se demande, est-ce que les salaires vont finir par suivre?
Ce serait intéressant. Il y en a beaucoup de travailleurs qui vont dire, tant mieux, espérons que ça monte. L'enjeu avec l'inflation, puis si on augmente les salaires, c'est qu'en augmentant les salaires, les prix vont continuer d'augmenter parce que les entreprises vont devoir s'adapter à payer plus cher. Donc, on va demander plus cher aux consommateurs. Donc, l'inflation et l'indice du prix à la consommation va continuer. En ce moment, on a comme un cercle vicieux qui fait en sorte que les prix augmentent. Là, on avait, au cours des premiers mois de la COVID, des gens qui avaient de l'argent qui n'en dépensaient plus. Une fois qu'on a commencé à lever les mesures, les gens ont pu commencer à dépenser davantage. La demande a augmenté et l'offre ne s'est pas adaptée. Pourquoi? Ben, parce que la COVID a quand même compliqué énormément de chaînes d'approvisionnement. Par exemple, des voitures. Pourquoi les prix ont augmenté des voitures usagées, par exemple? Parce qu'on n'a plus de voitures neuves à cause de certains objets, certains matériels techniques auxquels on n'a plus accès. Les logements aussi. Il manque de logements dans certaines grandes villes, notamment à Montréal. Le coût a explosé, ce qui fait en sorte que, ben oui, on augmente le prix d'achat, mais les loyers aussi. Même chose pour la nourriture. On a de la difficulté avec certaines chaînes d'approvisionnement. Le pétrole a commencé à augmenter vu qu'on a pu commencer à se déplacer, à voyager, mais aussi parce que l'OPEP a mis en place des mesures pour essayer de réduire un peu l'offre, ce qui a fait, encore une fois, augmenter le prix. Il risque d'y avoir un conflit en Ukraine. Ça pourrait, encore une fois, chambouler l'accès au pétrole. Donc, vous voyez à quel point, en ce moment, c'est pas facile là, de dire on va régler l'inflation, on va trouver une façon, on va augmenter les taux d'intérêt. Ouais. Inquiétez-vous pas, tout va bien aller. Si on augmente les taux d'intérêt, ce qui va se passer au cours de l'année prochaine avec la Banque du Canada, ça va un peu calmer la demande. On va un peu calmer la capacité d'emprunt. En ce moment, on s'entend, les taux d'intérêt sont hyper bas. Ça stimule l'économie. Ça fait en sorte que les gens ont plus facilement accès à de l'argent, donc à des dépenses. Mais ça ne réglera pas tous les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Et ça, va falloir que les politiciens trouvent une façon de faire, qu'ensemble, on soit capable de travailler à des hautes échelles pour trouver des façons de régler ces problèmes-là pour travailler sur l'offre. Parce que là, on s'attendait à avoir une inflation. On s'attendait à avoir un rebond des prix après la COVID. La grande crainte, c'est que cette inflation-là parte une chaîne, un cercle vicieux qui va être hyper difficile à casser. Si on a ça temporairement, on peut dire que c'est acceptable après le plongeon qu'on a eu dans l'économie à cause de la COVID. Mais après, il y a une autre question. Hier, le directeur parlementaire du budget disait au gouvernement Trudeau, votre plan de relance là, de 100 milliards pour l'économie, alors que l'économie va très bien, elle surchauffe même avec l'inflation. Peut-être que vous pourriez le garder pour vous, ce plan-là. Peut-être qu'on n'est pas obligé de dépenser tout cet argent-là. C'est pas nécessairement utile, en fait, et même ça pourrait être néfaste d'injecter autant d'argent dans l'économie. Alors, ça commence comme ça aussi, les décisions pour calmer cette inflation-là, qui a un effet direct là, sur notre portefeuille. Hey, 1,80 $ le litre d'essence d'ici cet été, des logements qui coûtent une fortune, on le voit à l'épicerie. C'est pas facile, là.
Ah oui, on a une pensée pour ceux là, qui n'ont pas les moyens de compenser pour toutes ces hausses-là, c'est clair. Parlons par ailleurs de la commissaire à la santé. Bon, sans grande surprise là, pour plusieurs, il nous a dit on n'était pas prêt à faire face à cette vague de COVID. Maintenant, il dit ça va prendre une réforme, mais pas une réforme de structure comme on a vu par le passé. Vraiment une réforme par rapport à l'approche, un service à la clientèle davantage là, dans le système de santé.
Oui, c'est peut-être ça. Dans le système de santé, il y en a beaucoup qui vont prendre ce rapport-là, là, qui vont comme le mettre en dessous de leur oreiller en espérant que quelqu'un à l'intérieur du ministère le comprenne et décide de le mettre en œuvre. Hein. Parce que là, c'était beau, là, on disait oui, il faut que les gens, que les patients puissent avoir accès à des médecins, à des spécialistes. Et donc, on va dire aux spécialistes, ben, faut avoir des patients. Allez, 15 minutes par patient, let's go, bing bang, allez-y, on accélère. Ça vous prend des patients, les médecins de famille? Ben, mettez-en dans vos listes. Ben, qu'est-ce que les patients et les médecins de famille faisaient? Ben, on va prendre les cas les plus légers si on est obligé d'en voir qui prennent 15 minutes, parce qu'on va pas prendre quelqu'un qui devrait nous prendre 45 minutes parce que là, on cochera pas les bonnes cases. Là, ce que la commissaire à la santé dit, essayons de voir les besoins plus que des résultats bureaucratiques. Là, on est sincèrement dans une machine qui pense en termes de machine pour des résultats de machine afin de remplir des rapports à la fin de l'année qui vont faire faire plaisir à la machine. Là, ce que la commissaire dit, c'est penser aux patients, penser aux gens qui sont sur le terrain, parce que si vous continuez de penser en grosse machine qui essaie juste de nourrir la machine, vous allez brûler ceux et celles qui sont dans cette machine-là et qui travaillent sur le terrain et qui ont besoin de vous. On parle aussi d'indépendance du directeur de la santé publique. On en avait déjà pas mal parlé. Ouais. Là-dessus aussi, là, c'est une porte ouverte à réformer ce poste-là. L'affaire qui va peut-être faire plaisir au gouvernement, c'est que la commissaire, pour le moment, dit pas besoin, en fait, pas pour le moment, elle dit pas besoin d'enquête publique sur cette vague-là, sur cette première vague-là. Essayons et mettons nos efforts pour travailler et réformer le système. Quoique l'opposition va dire oui, d'accord, mais en même temps, vous êtes même pas capable de dire dans votre rapport qui n'a manqué, qui n'était pas là, qui a pas fait en sorte que le travail s'est fait, qui a fait en sorte qu'il n'y a pas eu de financement ou qu'il y avait des angles morts. On espère que la coroner va le faire, mais si on écoute un peu ce que la coroner dit, c'est qu'il manque de l'information à plusieurs égards. Ouais. Donc, on s'entend, là, même si elle dit pas de rapport, la commissaire, même si elle dit pas d'enquête publique, ça calmera pas l'opposition qui, elle, a beaucoup de questions.
Merci beaucoup, Philippe Vincent.
Salut, Marianne.